podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette et ce soir on va jaser de lore avec notre sphinx de résidence. Salut Jason.
Hey, bonjour, bonjour, je vous ai cuisiné de quoi là? En fait, ce soir on va continuer la saga Weatherlight où on l'avait laissé.
Oh cool.
On passe à travers Prophecy ce soir.
Oh cool, cool, il me semble que je reconnais le monstre qui est en arrière de toi, là. Vous irez voir ça sur le YouTube là. Un Drake, c'est... En tout cas, on verra tantôt, tu vas nous
en dire. Non, c'est Weird Al Yankovic en ma petite ponisse, le monstre qui est derrière moi.
Vous entendez là-dessus, Jonathan Gauthier, notre l'artiste hein, de résidence. Comment ça se passe, man?
De ce temps-ci, ça se passe relativement bien. Je pense que je ne suis pas le seul qui est éternu avec la quantité de pollen dans l'air. Mais on va parler de jeux vidéo à la place. Fait que ce que je vous ai choisi cette semaine, c'est Xenocrisis. À mes yeux, définitivement dans le top 5 des jeux de Genesis qui sont sortis en 2019. On peut l'acheter sur à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il est même disponible sur Nintendo 64. C'est un bon dual stick shooter comme ça en fait plus. Fait que essayez ça, le soundtrack est bien le fun. Puis si vous êtes old school, hardcore, c'est vous allez passer bien des heures de votre vie là-dessus.
Puis là, juste pour faire sûr, t'as dit Dino Crisis, c'est ça?
Xeno.
X-E-N-O Crisis.
Oh ouais, c'est des Xenomorphs, t'as un gros gun, tu tires tout, puis tu meurs. Ah ouais.
Les Xeno Years, on va dire. Ben merci beaucoup d'être avec nous, Jonathan. Ce qui va nous amener donc pas mal tranquillement, pas vite, à rentrer dans le tas. Vas-y, Weatherlight nous ça, Jason, donne-moi un instant. Voilà.
Donc, la dernière fois qu'on avait parlé du Weatherlight Saga, hein, on était rendu pas mal loin. On est, dans le fond, on est dans l'année 2000. Donc ce soir, on va voir. La suite, là, c'est le set de Prophecy qui était sorti en juin 2000. Mais avant, je veux juste mettre quelques petits mises en contexte. On se rappelle, tu avais, dans le fond, à la fin de la saga de Rat, hein, de, tu sais, le Tempest, Stronghold, Exodus, le crew du Weatherlight se splittait en deux. T'en avais qui se faisaient comme abandonner sur le plan de Rat. Et le reste du crew avec le Weatherlight, le bateau volant, s'écrasait sur le plan de Mercadia. Et ça, c'était le plan de Mercadia sorti à l'automne 1999. À l'hiver, c'était Nemesis qui, dans le fond, c'était ce qui se passait avec l'équipage qui était resté sur dans le Stronghold. Et on a, dans le fond, c'est qu'on apprenait que Krovax devenait le chef des Phyrexiens. Après une espèce de tu te rappelles, Tommy, il y avait un genre de trial là, entre lui, Ertai, puis Volrat.
Ouais.
Et dans le fond, le set Prophecy sorti en juin 2000, c'est ce qui se passe sur Dominaria pendant ce temps. Je sais pas si tu vois un peu la gimmick, là.
Ouais, ok.
Il n'y a aucun des personnages du Weatherlight qui apparaît dans Prophecy. En fait, je suis même pas sûr si à la base c'était censé être connecté au reste de l'histoire. Vous allez voir, c'est quand même assez... Prophecy est considéré par plusieurs comme un des pires sets de Magic. C'est un petit set, c'est 160 cartes. Et il n'y a pas eu beaucoup de gros impacts sur les formats construits. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui considèrent que Prophecy, c'est un set de marbre, comme Homeland puis Fallen Empire.
Okay.
Moi, ce que je vais amener, c'est un autre regard là-dessus. C'est un set que peu de gens connaissent. Je pense que, Jonathan, si je te dis, donne-moi une carte de Prophecy, vite de même.
Ben, je joue à Commander, fait que je vais dire Rustic Study.
Donne-moi une deuxième.
Rustic Study, c'est bon, par contre.
Ouais.
Donc, on continue. Tu vois le genre, c'est un set qui a été oublié. C'est un set qui sort après que Magic était mort, c'est-à-dire pendant le Winter Combo de Urza Saga l'année précédente. Fait que, tu sais, il est un peu dans l'ombre de ça. L'automne d'après va sortir Invasion, qui est vraiment la culmination du Weatherlight Saga, qui est vraiment un gigantesque set, vraiment le fun. avec beaucoup de lore. Fait que, tu sais, Prophecy, comme on dirait qu'il y avait rien pour lui. Là. C'est vraiment. Sur le Wikipédia, il dit c'est le nadir de la saga Weatherlight. Le nadir, c'est l'inverse de Zenith. Là. C'est vraiment, t'es au plus creux. Moi, je vais essayer de vous le faire apprécier un peu plus ce soir. J'ai jamais drafté Prophecy. Moi, j'avais arrêté de jouer à Magic quand Prophecy est sorti. Mais je l'ai comme revisité là, pour faire ce show-là. Je suis passé à travers toutes les cartes. C'est un des sept qui a le moins de documentation. Il y a comme quasiment aucun article qui a été écrit à son propos. C'est vraiment là. Tout ce que j'avais pour me guider, là, c'était les copyrights en arrière du booster puis les cartes. Il y a presque rien.
Je te jure. Il est tombé mystérieux tranquillement.
Il y a presque rien là, sur Prophecy. Mark Wisewater, il n'y a rien écrit. Je sais pas si c'est parce
d'habitude,
que ça.
Lui, il fait ses going to work. Là. Il n'en a pas fait un qui parle de Prophecy. Genre.
Non, il n'y en a pas partout. C'est vraiment là, c'est le set mouton noir. Je dirais il est plus. C'est dans les sets les plus obscurs et les moins. Une chance que Commander est arrivé et qu'il y avait des cartes fortes pour Commander. Parce que sinon, là, ce set-là, il n'y a plus personne qui en parlerait.
Wow. C'est un peu comme quand les artistes sortent un album, puis faut qu'il. Puis je sais pas, le directeur, il est occupé à faire quelque chose d'autre avec un autre band ou quoi que ce soit, puis il engage comme un nouveau directeur, puis une fois que le set est sorti, on lui donne une petite tape sur l'épaule, puis on fait comme. Bon travail, mais voilà ton 4%.
C'est à peu près ça. Fait que je vais commencer par nous faire une petite mise en contexte de quoi Dominaria a de l'air au moment que Prophecy commence. Mais en fait, il faut reculer un peu dans le temps. En fait, il faut reculer à Urza Saga. Je sais pas si vous en... Ah oui, il y a en fait un roman aussi sur... Il y a un roman qui est sorti, puis les reviews sont vraiment mauvaises. Là. Vous amuserez à lire les reviews du roman Prophecy, qui est le roman qui supporte le set. Allez pas lire ça, là. C'est comme... Allez lire les reviews, sont drôles, mais allez pas lire le livre. Là. Il paraît que c'est vraiment pas bon. donc, la base... comment je peux dire ça? L'histoire centrale de Prophecy, c'est encore le département de marketing hein, qui a mis son gros pied à terre. Il y avait une carte dans Alpha, j'en ai souvent parlé, c'est le Keldon Warlord. Hein, les deux colorless, deux rouges, le gros bonhomme musclé, qui sont Power Toughness, c'est le nombre de créatures que t'as, incluant le Keldon Warlord.
Ça semble, il revient souvent, lui.
Il revient souvent. C'est pour ça que je dis le département de marketing.
OK.
Dans les années 90-2000, Wizard of the Coast, il se disait, les joueurs de Magic, ils aiment vraiment le Keldon Warlord, fait qu'on va leur en servir encore. Puis, le set de Prophecy, toutes les cartes rouges, c'est les Keldon. Mais c'est des Keldon améliorés, parce que si tu te souviens, la dernière fois qu'on avait fait l'Urza Saga, il y avait, ça retournez voir nos épisodes de l'été passé, là. T'avais à l'Académie Tolarienne, il y avait le magicien Barin et sa femme Rain, Academy Chancellor, ces deux cartes. Et... ils ont fait avec Urza, parce qu'ils savaient que l'invasion phyrexienne s'en vient, ils ont fait développer ce qui va devenir, en fait, c'est Urza a utilisé tout son savoir, là, les fameuses civilisations des Tran pour développer, tu sais, avec le Tran Foundry, le Storage Matrix, Urza Incubator, il a créé la race des Tran. Les Métatran.
Ouais.
Qui sont dans le fond des espèces de créatures artificielles, un peu comme ce que les Phyrexiens font, mais fait par des Dominariens, fait pour battre des Phyrexiens. Et ça l'avait beaucoup fâché Barin. Fait que là, tu sais, la carte opposition, notamment, c'était Barin qui s'estime avec Urza. On devrait pas faire des affaires de même, tu sais, comme jouer dans la nature, puis créer comme des races, là.
C'est quoi, t'as ton Spark, je suppose? C'est ça qui est dans
la tête. Ouais, c'est ça. fait qu'on on va, les Métatran étaient très présents dans Urza Destiny. On va les revoir quand on va faire l'invasion. Mais t'avais comme une sous-histoire dans Urza Destiny qui était leur élève modèle qui s'appelait Gata à l'Académie Tolarienne. Lui, s'était sauvé avec les formules des Métatran. Tu sais, la carte Treachery, hein? Que tu contrôles Ancient Creature puis ça te coûte pas un lem. Et le Twisted Experiment, c'est qu'ils se sauvent en fait dans le royaume de Keld et ils utilisent les technologies d'Urza pour transformer les Keldon en quelque chose qui sont encore plus forts.
Oh! Faut dire que le Keldon Warlord, il est plus bâti qu'Arnold, fait que ça va avoir besoin de technologie.
Fait que c'est les Keldon qui sont gris. dans Urza Destiny, on les voyait, c'est dans les cartes rouges dans Urza Destiny, ils nous montraient les Kuldan modifiés par les artefacts d'Urza volés par Gata. Et c'est les on va les appeler les Gatan, qui sont dans le fond des. C'est des Kuldan qui ont la peau bleue. Ils sont super faciles à spotter dans les artworks. Et là, tu te dis, à la fin de Urza Destiny, c'était dans le fond, Gata, il se rendait compte qu'il avait été manipulé par les Phyrexiens pour créer cette affaire-là. Et il va se sacrifier avec les formules pour plus que jamais que quelqu'un les utilise. Mais les Gatan, ils ont été créés, ils vont rester là. Et dans le fond, plusieurs siècles plus tard, c'est là qu'on est, c'est pendant le saga Weatherlight. Les Kuldan, là, tu sais, on est des années après. Ils sont maintenant comme en soif de conquête. Et ils se lancent vraiment, c'est ils ont développé une prophétie. Oh. C'est pour ça que le set s'appelle Prophecy. Je vais vous en parler dans un instant.
Fait que c'est eux autres qui ont fait la prophétie.
Ben, c'est qu'ils ont une prophétie, puis pour accomplir cette prophétie-là, il faut qu'ils partent à conquête. Okay. Avant de commencer dans le lore, je veux juste fermer une parenthèse. C'est la mécanique de base du set Prophecy. C'est important que je la développe avant qu'on commence dans le lore, parce que les deux sont interreliés. Ils ont appelé ça rétroactivement la mécanique Rhystic, comme dans Rhystic Study, à la fameuse carte. J'ai un exemple ici, le Rhystic Shield. Un colorless, un blast, c'est un instant. Toutes les créatures gagnent plus 0, plus 1. Et si l'autre ne paye pas une taxe de 2 colorless, il gagne aussi plus 0, plus 2. Ça, c'est une
commune. Tabarnak, man!
C'est une commune. Oubliez pas, les sets de l'année 2000 sont moins forts parce qu'ils voulaient ralentir Magic. C'était volontairement moins fort. Mais la base du set Prophecy, c'est le premier set basé sur les lands. Fait que t'as plein de gimmicks. La plupart des cartes, c'est soit que l'autre faut qu'il paye des taxes, sinon sont plus fortes. Ou t'as des gimmicks comme une carte qui était très jouée en compétitif à l'époque, le Chimeric Idol, un artefact 3 colorless. Pour 0, tu peux taper toutes les lands que tu contrôles et le Idol devient une créature 3-3 until end of turn. Ça, c'était utilisé dans les decks contrôle de l'époque. C'est que là, tu sais, ça te crée comme une espèce de. Comment on pourrait dire ça? De choix à faire sur qu'est-ce que tu fais avec tes lands. Et il paraît qu'en. Je l'ai lu, là, je l'ai pas essayé, là, mais il paraît qu'en draft, la manette est tout le temps super tight.
Ah! C'est pas ce que je veux dire? Ouais.
Ben, t'étais tout le temps là comme si j'aurais dû me garder un land on tap.
Ouais.
Et c'était très important parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, il y a le mana burn.
Ah oui, effectivement.
Puis, fait que tu sais, t'as plein d'affaires comme des auras, des ancient lands. Il y en a dans chaque couleur. Sun can feel, hein, tu tapes ton land pour counterer un spell à moins que l'autre tu payes 1. Verdant feel, tu tapes ton land pour donner +1/+1 until end of turn. Fait que là, tu sais, ça c'est une fois que t'as mis un aura sur ton land, ben là tu vas te porter à utiliser ton land pour faire l'effet que t'as mis dessus et non le garder pour payer des taxes de merde. Mm-hmm. Vous voyez un peu le genre, là, qu'est-ce qui se crée.
Oh ouais, ça se crée d'un bord pis de l'autre, j'aime ça.
Ouais. Puis, t'as des cartes aussi, ça c'est dans la continuité de Mercadia, c'est-à-dire des spells gratuits si tu discardes des affaires.
Ça, j'allais dans mon deck de slush, ça.
Ouais, le foil.
Tu peux spellé, ouais, sans avoir de mana en jeu. Tu jettes une île et une autre carte bleue de ta main. Ben, une autre carte, n'importe laquelle, puis tu counter un spell. Ça te coûte 3 cartes. 0 mana, mais la haine que ton adversaire t'envoie vaut franchement la peine.
Il pensait que t'étais tapé.
12 cartes par tour, on s'en fout.
Il pensait que t'étais tapé. Ouais, c'est une très bonne carte. C'est une des bonnes cartes de Prophecy. C'est encore utilisé en format construit. Vous voyez le genre, là, c'était un peu comme les mécaniques du set. Et là, tu sais, je vais vous donner un exemple ici. Brutal Suppression, un enchantement dans le rouge pour un rouge. Les Activated Abilities des cartes rebelles, hein, parce qu'oubliez pas que dans ce bloc-là, il y a les rebelles et les mercenaires. Les Activated Abilities des rebelles coûtent comme coût additionnel sacrifier un land. Et vu que la plupart des créatures étaient soit des rebelles ou des mercenaires, ben ça fuckait le chien. Là. Puis il y avait le même équivalent qui faisait sacrifier des lands, mais contre les gardes mercenaires. Fait que ça le problème de ce set-là, c'est qu'il est trop hermétique de lui-même.
Ouais.
En dehors du draft, là, les cartes, ça, parce que vu que ça affecte juste les rebelles, ben là, dans les tournois, si tu te ramasses contre un deck qui n'a pas de rebelles, cette carte-là sert à rien.
Ouais. Bref.
On continue. Fait que ça clôt la mécanique, mais gardez ça en tête que c'est un set basé sur l'interaction de combien de mana base qui te reste, puis il faut que tu sacrifies des lands, puis des fois tu pognes du mana burn. Je vais donner... on rentre dans les Kuldan. Hein. Les cartes rouges, c'est vraiment les Kuldan qui se lancent à la conquête.
Berserker.
Comme le Kuldan Berserker, 3 colorless, un rouge. Il est un 2-2. Puis, quand il attaque, si tu contrôles aucun land qui est untappé, dans le fond, toutes tes lands ont été tapées, ben là, il gagne plus 3, plus 0 un Talon of Turn. Tu vois, ça, c'est une commune. Hein. Tu vois, le genre de synergie, là. Fait que, tu sais, il te force à caster tes affaires avant d'attaquer.
Mm.
Ou sinon, si tu veux jouer suicide, mais ça peut être efficace. Si t'as rien, si t'as rien à caster, ben tu vas taper tes lands, tu vas te créer du mana burn, mais c'est pas grave parce que tu vas faire plus mal à l'autre qu'à toi.
Ouais.
Le genre de synergie cool. Là. Puis vous remarquez, là, les Kuldan sont bleus. Ça, c'est des à cause du projet Gatan.
Des Metatran parodies,
des Metatran croisés avec des Kuldan.
Ouais.
Tu sais, toi, Kuldan Arsonis, 2 colorless, un rouge, une commune, tu sacrifies. Tu sacrifies 2 lands pour détruire un land.
Tabarnak, c'est pas bon.
C'est vraiment pas bon, mais dans le cadre du draft, ça fonctionne.
Ça pouvait le faire, là, ouais, si tu réussis à péter le land de splash de l'autre ou ces affaires-là.
Veteran Brawler, hein, 1 colorless, un rouge, lui, il est 4-4. Il peut pas attaquer si ton adversaire contrôle des lands qui sont untappés. Et il peut pas bloquer si tu contrôles des lands qui sont untappés. Fait que là, il va te forcer, par exemple, à te faire du mana burn. Mais c'est quand même un 4-4 pour 2. Il y a pas beaucoup de cartes à l'époque qui sont 4-4 pour 2.
Effectivement.
Ça, c'est une rare.
Ça reste bon, ça. C'est bon encore, ça.
Ouais, et vous remarquerez, il y a encore de l'incohérence dans les artistes.
Ouais, il est pas tout bleu, lui.
Il est pas tout bleu. On continue.
Hey, mais ils sont musclés en tabarnak.
Oh oui, c'est tout le temps la gamique. C'est les Kuldan, c'est les gros douches.
C'est les années 90 où c'est que même les muscles avaient des muscles. Non, mais c'est classique. Je pense que c'est G.I. Joe Extreme. Écoutez pas le show, faites juste à regarder des screenshots. À mes yeux, c'est l'épitome du design des années 90. De l'année 90. Là.
Wow, ouais. Mais moi, on les avait écoutés. C'est tout bon, les G.I. Joe. T'es malade pour écouter ça. Fire the hole!
On continue. Toi, Citadel of Pain, 2 colorless, un rouge. Ça, c'est, on voit une forteresse des Kuldan, là, comment sont faites leurs forteresses. À la fin de ton tour, à la fin de la tour de chaque joueur, la Citadel of Pain fait, tu sais, la Citadel de la douleur, fait X dégâts au joueur que c'est la fin de son tour pour chaque laine qui est untappée. Fait que tu vois le genre là, c'est vraiment là, la gimmick.
C'est le fun, ça.
Ouais. Et ouais. Le flavor text, c'est la bataille est notre religion, cette forteresse est notre temple, et c'est signé Latula Kuldan Overseer. On va aller voir c'est qui ça, Latula. Hein, on voit la carte, là, les ordres de Latula, hein, Latula Order, un colorless, un rouge, c'est un enchant aura. Tu peux jouer comme un flash.
Elle a flash.
Elle a flash, en rouge, ça se fait plus, ça. Et les créatures qui t'enchantaient, à chaque fois qu'elle fait du dégât à un joueur, tu peux détruire un target artefact qu'il contrôle. C'est pas très bon, là, mais c'est juste de montrer que le mot Latula revient souvent. Là, on voit que les soldats, tu sais, on voit c'est plein de points dans les airs qui tiennent
les rues. Ouais. Il est capable de donner des ordres à tout ce monde-là.
Je sais pas si c'est juste moi, mais moi, je vois un genre de parallèle avec le film original de l'île du Docteur Moreau. Parce que on s'entend que c'est un génie fou qui crée comme une nouvelle race, principalement de soldats, qui essaie de plus en plus d'amener l'humanité à un autre niveau, puis de créer une nouvelle forme de vie. L'eau qui opère puis qui fait ses opérations s'appelle le House of Pain.
Okay.
Je pense que c'est Bela Lugosi qui joue le genre de mutant qui impose la loi. T'as 3 lois qui sont super importantes, qui jusqu'à temps qu'il y ait du sang qui sont écoulés, puis là, la révolte est là. Mais je sais pas, c'est peut-être moi qui écoute trop de films. Ben, je sais que j'écoute trop de films. Mais j'ai le feeling qu'il y a au moins 2-3 personnes qui ont travaillé sur le projet qui ont écouté l'île du Docteur Moreau.
Le plus grand rôle de Marlon Brando. Si vous voulez lire la meilleure critique de cinéma ever, là, googlez Ruthless Review Dr. Moreau Island. Parce que le gars, il rentre en détail dans quel... pourquoi ce film-là est douteux. Et c'est parles... vraiment fantastique.
Toi, tu parles celui-là des années 90?
Oui. Le réalisateur a été mis dehors, puis là, il est revenu sur le plateau de tournage en se faisant passer pour un... Oh, c'est un...
Toi, tu me parlais du livre, dans le fond.
Ah, moi, je te parle du classique de 1932, fait qu'on est...
Non,
je parlais d'un bon film, là, comme je te dis. Bela Lugosi est dans le même, fait que Marlon Brando, Bela Lugosi, c'est pas la même époque, mais... c'est pas grave, on parle de la même histoire en bout de ligne. Là.
On revient au Calden.
Ouais.
Latula, Keldon Overseer, 3 colorless, 2 rouges pour un 3-3. Spell Shaper Légende, et t'as un cycle de créatures dans Prophecy qui sont des Spell Shaper, hein, des faiseurs de spells, des façonneurs de spells. Dans le fond, c'est les créatures légendaires, il y en a une dans chaque couleur, et ils sont capables de caster. Dans le fond, c'est comme si elles castaient un spell.
Ouais.
Fait que tu vois, c'est que tu payes X, un rouge, t'as la tape, tu discardes 2 cartes de ta main et elle fait X de dégâts à une créature ou un joueur. Enfin, elle fait un genre de fireball.
Une boule de feu pour 2 cartes.
Ouais. Sauf que tu peux pas comme la splitter, fait que c'est pas vraiment un fireball, mais on se comprend.
Ouais.
Donc ça, c'est le personnage de Latula, probablement un des meilleurs dessins de Brom, selon moi. Là, moi, j'adore l'artiste Brom.
Ok.
Et ouais, dans ses débuts.
Je comprends ce que tu veux dire. J'aime beaucoup ce dessin-là, là, c'est juste ça que je voulais tenir. Et Latula, dans le fond, elle, elle a réussi à comme devenir la chef de toutes les Keldon, malgré à quel point ils sont brutales et tout. Fait que ça vous donne une idée à quel point elle a own. Et la prophétie, la façon dont elle fait ça, c'est qu'elle leur fait croire une prophétie.
Oh, ok, je comprends, là.
Ouais, puis elle leur dit que bientôt, il y aura... puis là, c'est un gros rip-off du Ragnarok des Vikings. Là. Ils n'ont pas été très originaux là-dessus.
Ben, promettre l'apocalypse bientôt, parce que en attendant, c'est assez standard.
C'est qu'ils disent, elle dit dans le fond que si on attaque à tel endroit, puis qu'on réussit à prendre ces terrains-là, ça va créer la bataille finale où ce que tous les anciens Keldon morts vont revenir à la vie pour on va tous faire une dernière bataille ensemble et après ça va être comme la finalité là, puis je rentre pas dans les détails là, mais tu sais c'est comme la finalité des Keldon, c'est la guerre là, puis ça c'est comme l'ultime guerre. Fait que c'est ça qu'elle leur fait à croire. Puis là tu comprends dans le fond que c'est un peu comme la prémisse, c'est que c'est l'invasion phyrexienne qui s'en vient. Latula, son problème à elle, c'est qu'elle est sous influence.
Bon, un autre.
La créature légendaire noire, c'est Greel Mindraker. 3 colorless, 2 noirs pour un 3-3. Et lui, il est capable de faire des mind twists. Tu vois, tu payes X un noir, tu discardes 2 cartes.
Ah, là, tu
et
jases.
Ton adversaire doit discarder X cartes randomly de sa main, fait que tu peux pas
nier. Et puis, tu peux le faire en instant aussi.
Normalement, il y a toujours comme fais-le juste dans ton tour, fais-le pas après le draw step de ton adversaire.
C'est ça, là, non.
Tu le fais quand tu veux. Ça peut être bon dans du Reanimator.
Un autre beau dessin de Brom, ça aussi. Le gars, il a l'air d'avoir des problèmes mentaux, le minimum.
Greel, en fait, c'est un sleeper agent phyrexien.
Oh, quelle surprise.
Il a été retconné. Là, à l'époque, c'était un Spell Shaper Legend. Il a été retconné en Vampire Horreur. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, il dit « Your Latula gift to me and I always play with my present ». Dans le fond, son flavor text, ça dit il s'adresse à quelqu'un, on sait pas qui. Tu es le cadeau que Latula m'a donné et je joue toujours avec mes présents. Là, on comprend dans le fond que probablement que lui, il est comme caché à quelque part dans sa forteresse. Là. Puis quand il y a quelqu'un qui lui déplaît, ben, elle le donne à Greel. Parce qu'il y a plein de cartes dans Prophecy que c'est Greel qui s'amuse à torturer du monde. La caresse de Greel, hein, un colorless, un noir, un aura. Ça, tu peux le jouer comme un instant, ça fait moins 3 sur une créature. Est-ce qu'on voit que Greel, il touche quelqu'un, puis ça a l'air de faire vraiment mal. Steel String, hein, tu voles la force, un colorless, un noir, un instant. Une créature a +1/+1, et une autre créature a -1/-1. Ça devait être cool en limité. Tu vois, c'est avec chaque... with each grunt of pain from Adad, Greel grin widened. Tu remarqueras, Tommy, que Le flavor text, ça parle de Haddad. Hein? C'est chaque fois que Haddad avait mal, Grill avait de plus en plus le sourire. Haddad, on le voit sur la flavor text de Latula.
Ah oui.
C'est Haddad. Tu vois, c'est tout ce qui est autour d'elle souffre. Et c'est signé Haddad, qui est un soldat de Kipamu. On voit les Kipamu, c'est qui tantôt? Dans le fond, c'est des adversaires des Kelden. Fait qu'on peut comprendre ici qu'elle a pogné Haddad et qu'elle l'a donné à Grill. Toi, le flay, là, c'est un autre exemple de la mécanique rustique que je parlais tantôt. Le 3 colorless, un noir, un joueur discarte une carte random de sa main. Et s'il n'a pas payé une taxe de 1 colorless, il doit en discarter une autre. Et ça dit dans le flavor text, les Kelden ne vont jamais l'admettre, mais Grill les dérange à eux aussi. Fait que ça, c'est le personnage de Grill qui est un peu comme, tu sais, c'est le bon vieux.
Ok, fait que là, les Kelden savent qu'il existe, là, que.
Ouais, mais ils savent pas
avec c'est quoi. Avec la Tula, mais ils savent pas nécessairement que c'est comme l'influence de la Tula ou ces affaires-là.
Ben, peut-être qu'elle réussit à les contrôler parce qu'elle a dit je vais te donner à lui si tu m'obéis pas. Tu sais, c'est pas clair, mais ce qu'on comprend, c'est que elle est pas mal le puppet de Grill, puis Grill serait un Phyrexien, même si c'est pas. C'est gardé un peu ambigu, là. Même dans le roman, là. Et ça va nous amener, en fait, tu sais, j'ai parlé les Kipamu tantôt. Oui. C'est que dans le Sept Prophéties, le royaume que les Kelden vont attaquer, c'est le royaume de Zalfir. Dans le fond, c'est le Zamura.
L'espèce d'Africain, là.
C'est ce qu'on a parlé il y a deux semaines, là.
Ouais.
Donc, il va y avoir une guerre entre Zalfir et les Kelden. Et c'est, dans le fond, les cartes blanches. On voit là, le Réveil Squad, deux colonnes, deux blancs. Et à chaque fois que tu te fais attaquer, si ton Réveil Squad est untappé, tu peux untapper toutes tes créatures. On voit le gars, il y a une trompette, là. Dans le fond, il réveille la garde. Ça dit aux armes, le lion rugit. On va voir dans quelques instants c'est qui le lion. Tu vois, Sword, là on voit l'armée là, des Zalfir. Hein, Sword Dancer, que le laisse un blanc pour un 1-2, que tu peux taper deux blancs pour que toutes les créatures qui attaquent ont -1/-0
until end of turn. Non, une créature qui attaque.
Target attaque. Ah oui, c'est une créature qui attaque. Vous remarquez, c'est des rebelles, là, leur creature type. Ça n'a pas tellement rapport. Parce que, comme, tu sais, dans Mercadia, c'est vraiment une rébellion.
Ouais.
Dans Stronghold aussi, là, c'est comme un peuple qui se fait attaquer par un autre peuple. Je trouve que ça fit moins. Mais bon, tu sais, c'était que le bloc voulait qu'il y ait une gamique de rebelles qui s'influencent un l'autre, là, des tribaux. Là. Et vous remarquez, là, le heart rate est quand même cool. Là, on voit encore là l'influence africaine et les masques et ces choses-là. C'est des scènes de guerre. Hein. Mercenary Informer, à deux colorless, un blanc, un 2-1. Il peut pas être targeté par des black spells ou des habilités. Et tu peux payer 3 pour prendre un mercenaire dans le mettre un mercenaire dans le bottom de la librairie. Il dit le problème avec les rebelles, c'est qu'ils rejettent trop rapidement l'autorité.
Ah oui, c'est sûr, c'est ça, des rebelles. Rebel News, tu sais.
Et finalement, on arrive au... C'est qui le chef, dans le fond, qui va... Le lion, tantôt, hein? On voit l'aura Magetta Boone, hein? Où est-ce qu'on voit une espèce de guerrier qui donne une épée à un autre guerrier.
Il la tient tout croche.
+2. Il la tient tout croche, mais bon, c'est le dessin, qu'est-ce que tu veux. Quand le lion rugit, ses chatons deviennent plus forts. Hein? Kipamu, c'est Ying. C'est le Magetta de Lion. C'est l'autre carte qui était très jouée de Prophecy. Ça, c'est encore très joué en Commander... En tout cas, dans le temps que je joue encore à Commander, ça joue encore, c'est très fort. C'est 3 colorless, 2 blancs. Là, c'est un Spell Shaper. Hein? L'autre, il faisait Mind Twist. Lui, il fait Wrath of God. Tu payes 2 colorless, 2 blancs. Tu le tapes, tu discardes 2 cartes et tu détruis toutes les créatures, excepté Magetta. Et elles ne peuvent pas être régénérées.
Il pique une crise, c'est Magetta.
Donc ça te clean une table. Ça, c'est le chef des armées de Zalfir à ce moment-là. Et ça va être une guerre, là. Dans le fond, le 7 vise à représenter une guerre entre les Kelden et eux. Et à travers de ça, il va y avoir d'autres personnages qu'on va voir.
Après la carte de la semaine, présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est, on va se taper une petite tranche de beat à bonde, puis checker ça de l'autre bord. Qu'est-ce que ça va être, la carte de la semaine? C'est une carte du 7, Jason?
Bien sûr.
Ouh, ça sera pas Ristic Study, c'est trop évident. Et là, j'ai assez hâte, je ferme ma gueule, on écoute le beat, puis on check ça l'autre bas. Ah ouais. Toi, t'as-tu une idée, Joe?
Moi, je voyais avec Talia, même si c'est sur une Istrad, parce que j'adore Talia. Parce que c'est, si on parle de taxes, je veux qu'on parle de Talia.
OK. ça fait pas bon. Un shot, là. Ça fait pas un shot.
Tommy, t'aurais dû fermer ta gueule. Je suis allé avec un choix évident, mais je vais t'expliquer pourquoi, puis tu vois, ça fait du sens.
Ah, c'est Rustic Studi.
Bon. Ma carte de la semaine, c'est Rustic Studi, parce que c'est la... Bon, je vais la décrire en premier. Rustic Studi, deux colorless, un bleu, enchantement. À chaque fois qu'un adversaire joue un spell... Tu vas piger une carte à moins qu'il paye une taxe de 1 colorless. Donc, tu comprends que dans une game comme... C'est pour ça que c'est très joué en Commander. Si tu as 3 adversaires autour de la table, ben ça se peut que tu piges... Là, avant ton tour, tu vas avoir pigé 3 cartes. S'il joue plusieurs spells, c'est chaque fois qu'il joue un spell. Il fait que s'il joue 2 spells dans son tour, chacun de ses spells va coûter 1 colorless, sinon tu piges une carte. C'est très fort. C'est une commune et c'est probablement... faudrait que je revérifie, là. Mais je pense que c'est une des communes qui vaut le plus cher.
Ah, c'est sûr et certain.
Moi, j'en avais pogné back in the days parce que j'avais acheté des cartes dans un marché aux puces, là. Et il y avait une couple de Rhystix parce que c'était des cartes qui avaient été ouvertes à l'époque de Prophecy, là, et de d'autres sets. Et il y avait une couple de Rhystix studiés dedans et je les avais vendues 30$ chaque.
Hey, hein?
Et ça, c'était en 2017. Fait que je suis sûr que ça a encore plus monté de valeur.
Oui, puis non. L'affaire qui est, on va dire, le fun, entre parenthèses, c'est que, ben, vous êtes au courant que Therese Nielsen, son contrat n'a pas vraiment été renouvelé dans les dernières années avec Wizard of the Coast.
Ah, oh, c'est une conspi. Mais on continue.
Fait que ça a donné de, mettons, une volonté pour l'imprimer avec différentes illustrations. Puis c'est toujours une carte que, soit en Modern ou quand ils vont faire, mettons, des Master Sets qui visent les joueurs de Commander.
Ouais, ouais.
C'est une carte que ils savent que les collectionneurs sont après. Fait qu'ils l'ont réimprimé, mettons, des Mystery Boosters. Je suis pas sûr qu'elle va être dans plusieurs autres sets. Puis une fois de temps en temps, ils font un Secret Lair avec un. Fait qu'ils essayent de la garder à l'entour de 35-40$ suivant l'inflation.
C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Puis, écoute, c'est à chaque fois que moi je l'ai, là, puis je la mets dans mes decks bleus, puis les gens, ils payent pas la taxe, ça te donne un avantage vraiment.
Ah, ça va vite, ben oui. Ben
ça
oui.
Va vraiment ouais. Trop vite. Mais la raison pourquoi je l'ai mis comme carte de la semaine, outre le fait que c'est comme, tu sais, comme quasiment une carte obligatoire Commander, c'est que tout le monde connaît cette carte-là, mais personne sait qu'est-ce que ça représente. Je te pose la question, Jonathan, là, t'as vu cette carte-là des milliers de fois dans ta vie, là, je suis convaincu ouais. Que t'es pas capable de me dire qui qu'on voit sur le dessin.
Non, je suis pas capable de dire ouais, que c'est qui sur le dessin.
C'est ça qu'on va aller voir. C'est quoi ça, Rhystix, tu dis? Eh bien, les gens de Zalfi, hein, comment qu'on les appelait tantôt, les Kapundi, il y a comme une sous-caste de magiciens qui s'est développée dans les dernières années. Qui sont les Rhystix? Fait que là, t'as la Rhystix Cave, hein, la cave Rhystix. Tu vois, ça fait un mana de la couleur que tu veux, à moins qu'un adversaire paye un colorless.
Oh, c'est pas bon, ça.
Non, mais c'est, oublie pas que c'est fait pour jouer en draft, là.
Bon, ouais.
Tu vois, dans le flavor text.
Pas en multiplayer.
En multiplayer, c'est bon?
Non.
Ben, c'est ça. Ça dit, tous les mages sont tremplent dans le même puits. Certains sont un peu plus pressés. Et c'est signé Alexis Zephyr Mage.
On le connaît, lui, ma somme.
Alexis Zephyr Mage, c'est elle. C'est le personnage qui est sur le dessin de Rhystix Studi. Elle est le spell shaper de la couleur bleue dans Prophecy. 3 colorless, 2 bleus, un 3-3. Tu payes X bleu, tu discardes 2 cartes et tu retournes X créatures dans la main de leur propriétaire. Donc, il faut faire un genre de gros évacuation, là. Donc elle c'est un peu comme le ce qui est devenu les Guild Mage plusieurs siècles plus tard là, on est vraiment comme longtemps après que Teferi est parti se promener sur les plans là. Et c'est le dessin qu'on voit sur Rhystix Studi et t'as plusieurs cartes dans Prophecy. En fait c'est chaque couleur a un cycle, chaque couleur a un enchantement commun Uncommon et rare qui porte le nom de Rhystix. Toi, Rhystix Déluge, 2 colorless, un bleu. tu peux taper, payer un bleu, taper une créature, à moins que l'autre paye un colorless. Et on voit que le flavor text est aussi signé Alexis Zephyrmain. Je l'ai fait, c'est un genre de pluie de magie qui a englouti un genre de cavalier. Alors Sorcery, Rhystic Scrying, 2 colorless, 2 bleus, tu piges 3 cartes. Et si un joueur paye 2 colorless, tu dois discarder 3 cartes. Fait que tu attaques son tap out, tu faisais ton Rhystic. C'est plus bon de nos jours. Là. On s'entend, on reste dans le contexte. Oubliez pas ce que j'ai dit au début de l'épisode, c'est considéré comme un des pires sets.
Oui.
Rhystic Lightning, même chose. Hein. Tu fais 4 de dégâts à une créature ou un joueur, à moins que l'autre paye 2 qu'on le laisse. Puis sinon, il c'est juste 2 de dégâts. Ça, c'est le Lightning Bolt du set. Imaginez à quel point c'est poche. tu vois, Rhystic Siphon, 3 colorless, 3 noirs, 2 noirs. À moins que l'autre te paye 3 colorless, il perd 5 de vie et tu gagnes 5 de vie.
C'est un des dessins poches de Ron Spencer qui est le frère de Thérèse Nielsen, justement.
Oui. Très atroce. Fait que vous voyez le genre, là, tu sais, Rhystic Tutor est pas pire, 2 colorless, 1 noir. À moins que ton adversaire paye 2 colorless, tu cherches une carte dans ta librairie et tu la mets dans ta main. Ce qui est un. Dans un sens, pourrait être vu comme un petit peu plus fort que Vampiric Tutor, mais il faut vraiment que l'autre est tap out, sinon il va payer le 2 puis tu n'iras pas chercher de carte, puis ton spell, il va rien servir. Fait que c'est pas bon, Prophecy. Mais bon, on comprend que, dans le fond, les forces de Zalfir dans ce set-là, leurs magiciens, ils font de la magie Rhystic, qui est, comment je pourrais décrire ça, la magie la moins bonne ever. À part Rhystic Study, jouer là, la carte de la semaine.
Ben de ce que j'ai vu dans les cartes présentées, il y a comme pas mal des Spell Shapers. De mémoire, les Spell Shapers, c'est eux autres qui ont généralement une activité qu'il faut que tu. Un Activate Ability, il faut que tu discardes des cartes pour faire.
Ouais, discarde deux cartes tout le temps. On va aller voir le vert au bord du bitabon.
Ben voilà, on va aller, comme vient de le dire Jason, merci pour la carte de la semaine. On va aller écouter une petite tranche de bitabon puis poursuivre le lore du fantasmagorique. Prophétie. C'est Grill.
On continue l'exploration. La faction verte, c'est la faction des gros monstres. C'est la Spell Shaper, c'est Jol'Rael, l'impératrice des bêtes. 3-3 hein, pour 3 colorless, 2 verts. Je n'ai pas besoin d'une armée, j'ai Jamura. Jamura, c'est le nom du continent qu'elle est dessus. Tu payes 3, tu discartes 2 cartes. Et until end of turn, toutes les lands qu'un joueur contrôle, ça peut être toi ou quelqu'un d'autre, deviennent des créatures 3-3. C'est un peu une Nissa avant Nissa. Jol'Rael, on l'a déjà vu beaucoup. Elle était sur beaucoup. C'est sa première carte de créature. Mais elle était sur beaucoup de vieilles cartes de Magic. C'est notamment le personnage qui est sur le Spirit Link dans Légende. C'est aussi le personnage qui est sur le Teferi Puzzle Box. Et le Flavor Text de Undiscover Paradise, qui sont une espèce de coin sur Jamura, là, ce genre de forêt paradisiaque où ce qu'elle se cache.
J'aime la quote, Jol'Rael's choice of homes was far better than her choice of allies. Ben oui, son choix de maison était pas mal mieux que son choix d'allié. Madame!
Jol'Rael, c'est un personnage emblématique là, de Jamura, là, de Zalfir. Elle est comme récluse dans la forêt, et quand l'invasion qu'elle donne arrive, ben, elle sort de ses forêts et elle s'en vient les aider. Hein, Jol'Rael favor. Tu vois, ça c'est le Regenerate du set. Treasure Beast. Là, dans le fond, toutes les grosses bibittes vertes dans le set, ça représente les affaires qu'elle amène dans la guerre. Hein. Treasure Beast, 3 colorless, 2 verts, un 4-4. Et à chaque fois qu'il se fait bloquer, le bloqueur doit sacrifier un land.
C'est pas pire.
C'est une commune. Fait que tu peux en pogner plusieurs dans un draft. Vous voyez le genre. Et. C'est ça, t'as d'autres cartes là qui représentent en fond le clash entre les Keldon et les troupes là, de Jamura. Là, tu vois, Devastate, 3 colorless, 2 rouges. Les Kasinka sont tellement hauts, là, c'est incroyable à quel point le power est down en 2000.
Ouais.
Ça vieillit très mal. Tu vois, c'est détruit un land et ça fait un dégât à toutes les créatures de chaque
ça vaut 3 colorless puis un rouge, ça vaut pas plus.
Ouais, c'est ça. Donc, on voit le genre. Et là, ce qui va arriver, c'est que au début, les Keldon, ils vont comme gagner. Et les gens de Zalfir, ils vont aller chercher l'aide.
Bon, encore se sauver à Tolarian Academy, tabarnak.
Ils vont aller chercher l'aide de l'Académie Tolarienne de Barin. Parce que vu que c'est des Keldon qui ont été transformés par les technologies de Urza, ben, ils se disent, t'aurais peut-être une façon de nous aider à les battre, hein, les Keldon. Et là, en fait, ce qui va arriver, c'est que, tu sais, Barin, et comme ça, c'est plus dans le roman, là, il est pas sur beaucoup de cartes dans Prophecy. Mais ce qui va arriver éventuellement, cependant, dans le storyline, c'est que Rain, hein, sa femme, qui est l'Académie Chancellor, elle se fait ramasser par Grill. Grill, il va voir ça, puis il va se dire, oh shit. Et il va tuer Rain. Fait que là, c'est comme ça que le personnage de Rain arrête d'exister dans le Weatherlight saga. Et ça va mettre Barin vraiment en crise. Vraiment, vraiment, vraiment en tabarnak. Et ce qu'il fait, vous vous rappelez, dans le set d'Urza, la particularité de l'île de Tolaria, c'est que à cause des expérimentations, là, qu'il y a notamment avec Karn qui ont mal viré, retournez voir nos épisodes sur Urza Saga, le temps est comme tout à l'envers, hein, sur l'île de Tolaria. Il y a des zones où le temps est slow et des zones où le temps est comme rapide. Fait que Barin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une zone où le temps est ralenti et il va se mettre à boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau, dans une rivière de ce coin-là. Et ça va le rajeunir. Fait que dans Prophecy, les cartes où on voit Barin, et ça c'est important parce que ça va être la continuation du storyline, parce qu'on va voir, et ça fuck un peu les gens parce que, tu sais, dans Urza Saga, Barin c'est un vieux wizard style Gandalf avec une grosse barbe blanche.
Ouais.
Tandis qu'à travers de tout le cycle, dans Prophecy, dans le cycle Invasion, Barin, soudainement, c'est un genre de dude qui a des...
Il repogne sa fougue de Wolverine.
Ouais, il est un peu à la Wolverine. Il a l'air comme tout le temps fâché, avec une grosse moustache noire. Vous allez voir, on va le voir sur plusieurs cartes. Et si tu sais pas, si t'as pas lu le livre qui t'explique qu'il a lu qu'il a bu de l'eau qui rajeunit, là, à cause d'une zone de slow time, ben tu comprends pas pourquoi soudainement il est plus pareil. Fait que c'est la carte Eitanel Awareness, hein. Là, il a bu l'eau, là, puis là, dans le fond, ça décupe ses pouvoirs. Quand ça rentre en jeu, tu discartes ta main et au beginning de ton draw step, tu piges une carte. C'est un genre de Holding Mind trop cher juste pour toi, là. It startled me, oh, alive, one feel on the edge of death. Ça m'effraie à quel point on est en vie quand on est proche de la mort. Signé Barin Master Wizard. Et le genre de Barin Full Power, hein, qui va faire sa vengeance, c'est lui qui va donner l'espèce de bombe finale là, pour vaincre les Keldon et les repousser de Zamura. Mais il n'y a pas vraiment de carte qui montre la victoire. Parce que dans le fond, la victoire, c'est quand tu drafles cette prophétie. Mais on va voir quand on va faire Invasion cet été, quand on va faire le Lord Invasion. La continuité de Prophecy. Il y a beaucoup d'affaires de Prophecy qui sont continuées sur des cartes dans Invasion qu'on va voir.
Okay.
Sinon, pour terminer, je veux juste montrer, tu avais les cycles des cartes fortes, considérées comme fortes.
Ah oui, les avatars!
Dans un cycle d'avatars dans Prophecy. Fait que dans le bleu, là, je vais vous donner, ils font toutes la même affaire. Dans le fond, chaque couleur a son avatar. Et c'est dans le fond, ils coûtent toutes 8, dont 6 colorless. Mais si tu réussis à faire une quest, il te coûte 6 de moins. Fait que l'Avatar of Will, qui est un 5-6 flying, là, c'est un Mahamoti Jin, si ton adversaire a pas de carte dans tes mains, il va juste te coûter 2 bleus. J'ai vu des decks. Il y en a un qui m'a pété dans un magasin l'année passée. Il jouait ça avec plein de discards, des M. Tuturak.
Ah oui, c'est une bonne idée.
Fait que là, il l'avait casté au tour 3, là, il y avait un 5-6 flying. C'est difficile à se débarrasser.
Surtout qu'il vient de t'enlever toutes les cartes de ta main avec tes bourrées.
Dans le vert, ça c'est Kassem, hein, qui est une habitude de notre émission, là, Professeur Nox. Il m'a déjà dit que c'était son monstre préféré à l'époque.
Oh,
Avatar,
ouais.
Avatar of Might, qui est un 8-8. Deux verts, et pour qu'il te coûte 6 colorless de moins, ton adversaire doit avoir 4 créatures de plus que toi. Si ton adversaire a 4 créatures de plus que toi, ton avatar, il va te coûter 6 de moins. Fait que dans le fond, c'est la gamique, c'est de trouver une façon là, de caster un 8-8 trample autour 3-4. Après ça, t'as Avatar of Fury hein, dans le rouge, 6 colorless, 2 rouges, un 6-6 flying, c'est un genre de dragon. Et si ton adversaire a contrôle 7 laine ou plus, il te coûte 6 de moins. Je pense que c'est le moins bon de la gang, lui. Et ouais. Il y a Fire Breathing.
Oui, c'est le moins bon.
Mais surtout qu'il y a plein de pet laine en plus. Là.
Ouais. Ouais, tu sais, ça, comme c'est contre-synergique, là. C'est bizarre un peu. Avatar of Hope, 6 colorless, 2 blancs. Si t'as 3 de vie ou moins, elle va juste te coûter 2 blancs. Fait que ça te fait un 4-9 flying qui peut bloquer toutes les créatures que tu veux. Dans le fond, elle a comme. Elle peut bloquer 100 créatures.
Ah, puis le meilleur, puis le plus cool, il s'en vient, c'est un de mes monstres préférés.
Ouais, le meilleur, qui est le plus. Comme la carte emblématique ouais. de cette set-là, c'est le Avatar of Woe. Lui, c'est un 6-5. Et si t'as 10 créatures ou plus dans toutes les graveyards autour de la table, il va juste coûter 2 noirs. Et il peut pas être bloqué. Il peut seulement être bloqué par des créatures qui sont noires ou artefacts.
Il est fear, dans le fond. Ouais. Tu le tapes, tu payes un pète un monstre. Mais...
Ouais, c'est un genre de royal assassin. Là. Il fait tout l'avatar WoW. C'est vraiment le plus fort. Probablement la carte la plus forte dans le set.
Ouais. C'est quoi ce bonhomme-là? Il vient de où? C'est
il n'y a pas rapport dans le storyline. Pas okay. tout. Il n'y a aucun. Ils sont pas mentionnés. C'est juste comme.
OK.
Et puis je te dis là, c'est, je pense que c'est principalement dû au fait qu'il n'y a pas de documentation qui reste sur Prophecy. Tu sais, il n'y a pas d'article qui en parle.
Ouais.
J'ai checké, il n'est pas dans le roman.
Ok.
Fait que genre, Zalfir a ses 5 lunes, puis eux autres, ils ont leurs 5 avatars.
Ben, ça se passe en partie sur Zalfir, là. Tu sais, comme le bleu, il y a un petit look zalfirien, là. Mais sinon, l'autre gros cycle de cartes fortes, c'est les vents. Puis ça a un rapport avec la prophétie des Keldon. Fait que t'as une carte dans chacune des couleurs, ils coûtent toutes 9. C'est des cartes rares. Et tu vois, le Searing Wine coûte 9. Tu fais, dans le fond, si t'es capable de te rendre jusqu'à là, ça fait 10 de dégâts à une target créature ou un joueur. Et ça dit dans le flavor text, le premier vent de l'ascension est la forge qui brûle toutes les impuretés. Et c'est signé le Kel de Triomphant. Après ça, t'as le Plague Wine, hein, la peste. Coûte 9, tu détruis toutes les créatures que tu contrôles pas. Et ça peut pas être régénéré. Ça c'est très, très, très fort. Et ça dit le deuxième vent de l'ascension est le Reaver. Qui va détruire les unworthy, hein, ceux qui ne le méritent pas. Le Denying Wine, hein, pour 9 dans le bleu, tu cherches dans un target player, la librairie d'un target player pour 7 cartes que tu vas remover from the game. Ça dit le troisième vent et l'ascension de l'Illuminator qui nettoie le chemin desquels vers la victoire.
Oh,
après ça, t'as le Blessed Wine pour 9. Le target player, son total de vie revient à 20. Le quatrième vent est l'ascension de l'Anointer. C'est loin, là. Ça se traite du mal en français, ça. Qui va déifier ceux qui le méritent. Tu vois, c'est encore la gimmick là, du Valhalla là, puis du Ragnarok. Vitalizing Wine, c'est le dernier. 8 colorless, 1 9. Toutes les créatures ont plus 7, plus 7 until end of turn. Le cinquième vent de l'ascension est l'exalté qui remplit la destinée des Keld. Vous voyez le genre là. Je trouve que c'est un peu comme. Je trouve qu'il aurait pu faire de quoi de meilleur. Je ne joue pas les mécaniques des cartes, là, ça c'est cool, mais je veux dire le lore. On dirait qu'il est comme tout est comme discordu. Là. Puis après ça, ben, t'as des. Dans le futur, ils sont mis à faire des cartes qui faisaient comme des clins d'œil à Prophecy. Comme dans le bloc Time Spiral, où ce que le passé se mélange avec le présent et le futur, ben, dans le fond, c'est les Keldon de l'époque de Prophecy se retrouvent dans le Dominaria présent de cette époque-là. Fait que tu as le Keldon Armardier, Keldon Marauder, puis Gatton Rider qui sont tous. Des Keldon de cette guerre-là qui se retrouvent là, dans le futur, dans le fond, par rapport à eux. Et ils ont. Et tu vois, le Keldon Marauder, il y avait Vanishing, là, il n'est pas là pour longtemps. Sinon, un autre hommage, tu avais le Flame of Keld dans Dominaria. C'est la saga qui avait l'histoire des Keldon. Ça a déjà été une carte de la semaine. Et l'Atula, elle a eu comme son espèce de pendant. En fait, c'est comme un des boss des Keldon dans l'époque moderne. Là. c'est Valduk, le Keeper de Flame, où ce que vraiment l'artiste a vraiment copié la même pose que l'Atula. Ça, c'est la créature, le chaman légendaire que à chaque fois que tu émets un aura ou un équipement, il crée un Fire Elemental 3-1 qui a Trample Ace until end of turn. On voit ça notamment là, dans les... ils l'ont mis aussi dans March of the Machine, dans les reprints. Là. Dans Dominaria United, il y avait le Golden Argosy et le Astar Bearer of Blade. Le Golden Argosy, ça c'est le bateau que les Kelden sont censés voir quand leur fameux apocalypse arrive. Là.
Ah, ok.
Toutes les morts vont revenir en vie et ils vont embarquer sur le Golden Argosy pour voler vers la dernière bataille. Ils n'avaient jamais fait de carte, c'était dans le roman, mais ils l'avaient jamais mis en carte. Fait que dans Dominaria United, ils ont mis le Golden Argosy, qui est sorti l'année passée, là, ils ont mis le Golden Argosy, puis ils ont mis son capitaine qui est Astar, le porteur des lames. Donc vous voyez que tu sais comme c'est un set oublié, mais ils ont mis quand même certains clins d'œil là.
Quelques petits hommages, c'est cute.
Ouais. Et la boss des les Kelden Astar sont comme en chicane, sont splittés en deux là, même s'ils sont en coalition contre les Phyrexiens. Dans le fond, c'est Rada qui est la Kelden Warlord rouge et vert. Elle représente un peu plus comme les Kelden old school, tandis que Garna Blood Fist of Keld. Qui est dans le noir et le rouge, elle c'est vraiment plus le côté gata des Kelden là, c'est que ouais, on devrait comme tu sais faire comme dans le temps de la Tula là, puis se mettre à attaquer tout le monde.
On pis, était bien dans ce temps-là.
On était bien dans
ce temps-là. Puis on faisait des boules de feu partout, Colin. Fait qu'une civilisation peut-être qui nous garde encore des surprises, on ne sait pas. Une civilisation en plus artificielle, c'est assez capoté ça.
Oui, ben non, un semi là, mais C'est un autre projet d'Urza qui a mal tourné. Oh. Fait que la prochaine fois qu'on va retourner pour le Sega Wonderlight, ça va être au mois de juillet. Et on va faire Invasion, Plane Shift, puis Apocalypse. Attachez votre truc parce que ça va être dense.
Merci beaucoup pour ça, Jason. Jonathan, est-ce qu'on rappelle le titre de la tune qu'on a entendue en background?
On écoutait la trame sonore de Xeno Crisis, disponible sur pas mal n'importe quoi. Linux, macOS, nomme-les.
On va aller voir un peu de gameplay de ça. Tu nous en as parlé en grands mots. Merci beaucoup à Martin Godette qui s'occupe du montage. Bond pour le beat, l'adversaire. Merci Jason. J'aime tout le temps ça quand c'est des pépites de lore là-dessus. Mon nom est Tommy Godette et je vous informe que le show est disponible sur Spotify et que je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins dans la screw possible.
De la famille H2O Web Media.